Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et UDM Nouvelles. Au programme, le café de Pierre. Variole simienne, quels sont les changements de comportement? Et l'hospitalisation involontaire. Bonne écoute!
Le café de Pierre. Un texte de Isabelle Haché, paru le 2 juin 2023 dans La Presse. Elle s'appelle Cannelle et travaille dans une pâtisserie. Rien que ça, c'est un peu de la poésie. Elle vient de Bretagne, a les yeux en amande, et quand on l'aperçoit derrière son comptoir rempli d'éclairs colorés, pistaches framboises, pralinées noisettes, ou caramel beurre salé, on a l'impression de poser les pieds dans une chanson de Joe Dassin ou dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mais on n'est pas à Montmartre, ni aux Champs-Élysées. On est en plein centre-sud, à Montréal. La pâtisserie française, l'Éclaircie, est un ovni posé rue Ontario entre les friperies et les restos de patates frites. Cannelle Trinquart a débarqué de Bretagne en septembre pour étudier en sciences politiques à l'UQAM. Elle a rapidement commencé à vendre des éclairs multicolores à la boutique du pâtissier montréalais Gilles Morin, lui aussi d'origine française. Au moment de sa formation, Cannelle a remarqué quelque chose d'étrange sur la caisse. Entre les espressos, les cappuccinos et les macchiatos, il y avait une touche spéciale, café de Pierre. Elle a demandé à Gilles, « C'est quoi ça, le café de Pierre? » « Tu verras. » « Mais comment je vais le reconnaître, ce Pierre? » « Tu verras, je te dis. Quand tu le verras, tu le reconnaîtras. » Elle l'a reconnu, bien sûr. Pierre, c'est le vieux monsieur gentil qui vient chaque jour faire son tour à la pâtisserie. Celui qui sourit tout le temps, qui s'intéresse à tout le monde, qui connaît tous les employés par leur nom. Il sait d'où ils viennent, en quoi ils étudient, ce qui les passionne. La première fois qu'il a vu Cannelle, en entrant dans la pâtisserie, Pierre s'est exclamé avec chaleur. « Mais je ne te connais pas, toi !» Comment tu t'appelles? Ah, tu viens de Bretagne. C'est beau, ça, la Bretagne. Pierre, c'est l'enfant du quartier, le vieil homme modeste, issu d'une famille ouvrière. Veuf depuis 15 ans, il souffre peut-être un peu de solitude. La pandémie et ses confinements n'ont sans doute pas été faciles pour lui. Mais ça ne paraît pas. Quand il pousse la porte, il illumine la pièce. Il réchauffe les cœurs. Cannelle adore le voir entrer dans la pâtisserie. Il lui rappelle son grand-père, mort récemment. À Noël, j'étais la seule qui était restée travailler. Tous les autres étaient rentrés en France. Il est venu prendre son petit café. Il a tenté de la réconforter. « Alors, tu ne vas pas retrouver ta famille pour les fêtes? Ne t'en fais pas! » « Ce n'est pas grave. » Pierre ne prend toujours qu'un café. Les pâtisseries, il aimerait bien, mais son médecin lui a conseillé d'éviter le sucre. Le petit café de Pierre est bien ordinaire. Un americano avec un peu de lait. La maison le lui fait à prix réduit. 2 $ la tasse. D'où la touche spéciale sur la caisse. Gilles Morin a ouvert l'Éclaircie il y a 2 ans et demi, en pleine pandémie. Un acte de foi. M. Pierre a été son premier client. Il a fini par faire partie des meubles. Il appelle les employés ses amis français. Parfois, il passe devant la vitrine et, sans entrer, fait un petit coucou à Canel, derrière son comptoir. À sa dernière visite, M. Pierre avait l'air un peu fatigué. « Rien d'alarmant », avait-il dit à Gilles. Il avait un peu de mal à respirer, mais c'était la saison, le pollen. Puis, il a cessé de venir à la pâtisserie. Une semaine a passé. Tout le monde s'inquiétait. Ce n'était pas normal. Mardi, quelques membres du Parti marxiste-léniniste du Québec, PMLQ, se sont présentés à la pâtisserie avec un paquet de feuilles imprimées. Pas un tract communiste, un avis de décès. Pierre Chénier avait été terrassé le 18 mai, à l'aube, par une insuffisance cardiaque aiguë. En fin de compte, le vieux monsieur n'était pas si vieux. 69 ans. Et puis, il était moins monsieur que camarade. Pierre Chénier était chef du PMLQ, dont les bureaux se trouvent rue Ontario, à deux pas de l'éclaircie. Il était militant à l'UQAM quand il s'est joint au parti, en 1975. Contrairement à la très, très vaste majorité de ses camarades étudiants de l'époque, il y est resté. Toute sa vie. Il a été chef imprimeur pour la presse du parti. Il a été journaliste pour le marxiste-léniniste et le forum ouvrier. Grand mélomane, il a aussi été disquaire. Le redoutable critique de musique classique de la presse, Claude Gingras, disparu en 2018, se fiait à Pierre pour savoir quelle interprétation d'une œuvre choisir. Raconte son amie de longue date, Geneviève Royer, une dirigeante du PMLQ. Au-delà de la politique, Pierre Chénier était un homme éminemment gentil. Il apportait une attention immense aux êtres humains qui l'entouraient, dit son ami, qui ne s'étonne pas de la réaction des gens du quartier. Tout était toujours digne d'intérêt pour Pierre. À l'éclaircie, on encaisse le choc. Canel Trinquart en a parlé sur Twitter. Quelques lignes, belles et tristes. La vie, la mort. Une histoire banale au fond. Pourtant, elle a touché les cœurs. En deux jours, l'enfilade a été vue plus de 3 millions de fois. Les amis français de la rue Ontario ont reçu tant de commentaires qu'ils ont décidé de rendre hommage à Pierre Chénier à leur manière. Pendant tout le mois de juin 2023, nous vendrons des cafés à 2 $ et nous verserons l'argent récolté à un organisme de charité, dit Gilles Morin. Pierre aurait aimé ça. Il a toujours voulu que ça fonctionne pour nous. Je pense que ça lui aurait vraiment fait plaisir. Pierre ne sera pas oublié, assure Canel. La touche sur la caisse, promis, on ne la supprimera pas. C'était Le Café de Pierre, un texte de Isabelle Haché, paru le 2 juin 2023 dans La Presse.
Variole simienne, quels sont les changements de comportement? Un texte de la salle de presse, paru le 23 mai 2023 dans UDM Nouvelles. Bouchra Nasri, de l'École de santé publique, étudiera les comportements à l'égard de la variole simienne et des hommes gays, bisexuels ou des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. L'année dernière, le Canada a connu sa première grande éclosion de variole simienne, ou Mpox, dans la foulée de la propagation de la maladie partout dans le monde. Les zoonoses, qui, par le passé, étaient circonscrites à une région géographique déterminée, se classent de plus en plus parmi les urgences sanitaires mondiales. Avant 2022, la maladie virale qu'est la Mpox était largement ignorée par la communauté internationale, souligne Bouchra Nasri, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Cependant, lorsqu'elle a commencé à se propager dans de nombreux pays et qu'une épidémie s'est déclarée, elle est devenue une urgence de santé publique internationale. Le 24 mai, le gouvernement du Canada a donc annoncé un investissement des Instituts de recherche en santé du Canada, IRSC, de 6,35 millions de dollars pour appuyer les travaux de portée nationale ou internationale de 13 équipes de recherche sur la variole simienne et d'autres menaces zoonotiques. Ce nouvel investissement témoigne des risques continus de transmission de la maladie et de la menace que représentent d'autres zoonoses au Canada et ailleurs dans le monde. L'épidémie actuelle a aussi eu des répercussions particulières sur la communauté des hommes gays, bisexuels et des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ou communauté GBMSM pour « Gay, Bisexual and Older Men Who Have Sex with Men ». La professeure Nasri, spécialiste de la modélisation des maladies infectieuses, et son équipe ont donc soumis un projet de recherche pour étudier la problématique et qui figure parmi les 13 projets financés. L'équipe pourra compter sur un financement de 412 000 $ sur 2 ans pour établir un modèle épidémiologique de la variole simienne qui tient compte des changements comportementaux. L'influence des comportements humains. La modélisation sera élaborée à partir de la littérature scientifique et de données recueillies en temps quasi réel sur les comportements dominants à l'égard de la maladie et des membres de la communauté GBMSM sur les réseaux sociaux. Il est important de comprendre les modes de transmission des maladies infectieuses comme la Mpox, mais il est tout aussi crucial d'analyser l'influence du comportement humain sur la dynamique des maladies, fait valoir Bouchra Nasri. Pour réduire sa propagation, il faut comprendre comment les gens réagissent aux informations sur la maladie et comment les changements de comportement suscités par cette réaction peuvent interférer dans les stratégies de santé publique. En outre, pour l'équipe de la professeure Nasri, les répercussions disproportionnées de la variole simienne dans la communauté GBMSM donnent à penser que d'autres problèmes de comportement doivent être pris en compte. Plus particulièrement, les attitudes stigmatisantes peuvent se traduire par une plus grande hésitation pour les personnes de la communauté GBMSM à se tourner vers les services de santé publique et influencer l'opinion publique vis-à-vis de la maladie. Dans la foulée, le projet prévoit la création d'un comité consultatif communautaire composé d'experts et de membres de la communauté GBMSM afin d'élaborer des stratégies adaptées à la réalité de cette communauté et de faire connaître rapidement les résultats de cette recherche à un large public. À propos de la Mpox et des investissements des IRSC. En décembre dernier, le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire des IRSC et le Centre de recherche pour le développement international ont investi 5,5 millions de dollars dans 2 projets de recherche sur la variole simienne au Canada et en Afrique. Le 24 mai, les IRSC ont offert un financement supplémentaire de 6,35 millions de dollars en appui à 13 projets de recherche. Les 13 projets de recherche sont axés sur l'efficacité du vaccin antivariolique, les campagnes de vaccination et les stratégies d'atténuation, la détection des mammifères hôtes possibles du virus de la Mpox et la mise au point de modèles mathématiques de la transmission des zoonoses. Selon les informations fournies par les IRSC, la maladie s'est propagée en 2022 en dehors de sa zone d'endémicité dans plusieurs régions du monde, y compris au Canada. Cela a déclenché une mobilisation mondiale et montré la nécessité d'approfondir les recherches sur ce virus. le premier cas chez l'humain a été détecté en Afrique en 1970. Une zoonose, comme la variole simienne, est une maladie infectieuse qui se transmet de l'animal à l'humain. Les agents pathogènes zoonotiques peuvent se propager chez les humains par contact direct ou par la nourriture, l'eau ou l'environnement. Parmi les éclosions zoonotiques antérieures figurent la grippe porcine, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et la COVID-19. Le 23 juillet 2022, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la variole simienne était une urgence de santé publique de portée internationale. En date du 28 avril 2023, le nombre total de cas confirmés de la maladie au Canada était de 1484, l'Ontario et le Québec étant en tête de liste. Près de 87 000 cas ont été confirmés à l'échelle mondiale. Au IRSC, 11 des projets de recherche sur la variole simienne seront appuyés par le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire et 2 par l'Initiative de recherche sur le VIH-SIDA et autres ITSS, infections transmissibles sexuellement et par le sang. C'était « Variole simienne, quels sont les changements de comportement ?» Un texte de la salle de presse paru le 23 mai 2023 dans UDM Nouvelles.
L'hospitalisation involontaire. Un texte de Benoît Garot, président du groupe Espace Santé, Myriam Morissette, avocate associée chez Terrien Couture Jolicoeur, Joanne Rioux, médecin psychiatre à l'hôpital Charlemagne, paru le 15 juin 2023 dans La Presse. En avril 2023, la Cour suprême de la Californie a rendu son verdict. Le gouverneur Gavin Newsom pouvait aller de l'avant avec son plan CARE, Community, Assistance, Recovery and Empowerment, visant à obliger les personnes souffrant de problèmes de santé mentale à se faire soigner. Plus tôt cette année, une coalition de personnes avec handicap avait demandé à la Cour suprême de déclarer inconstitutionnel le projet CARE puisqu'il outrepassait des procédures et mettait en péril la protection des droits des individus. Avec le projet CARE, une nouvelle Cour civile verra le jour. Une Cour qui aura pour mandat de diriger les personnes avec des troubles de santé mentale et les sans-abri qui refusent des traitements vers des soins et de l'hébergement. Des patients qui pourront être dirigés par la police, des personnes œuvrant en santé mentale, des médecins et des membres de la famille. L'introduction du système CARE fait en sorte que la Cour pourra ordonner une évaluation clinique de l'individu et, si son état correspond à certains critères, exiger un suivi auprès de travailleurs de la santé. Le manque de collaboration mènera à d'autres audiences et actions de la Cour pouvant aller jusqu'à la tutelle. À la dérive, sans soins. Depuis une vingtaine d'années, on voit des patients avec des problèmes de santé mentale transférés dans des résidences supervisées ou dans les communautés afin de mettre fin à des pratiques d'institutionnalisation systématique. On connaît tous des personnes atteintes de problèmes de santé mentale et des familles aux prises avec des enfants malades. Les services de psychiatrie débordent et les communautés manquent de ressources pour aider et prendre en charge les patients. La très grande majorité des personnes ayant des problèmes de santé mentale itinérante ou non, ne pose aucun danger, et ces personnes vivent leur vie en toute liberté, selon les mêmes contraintes de la loi que les autres. Sauf que les grandes villes sont aussi aux prises avec de plus en plus de personnes avec des problèmes de santé mentale et des sans-abri qui sont laissés à la dérive, sans soins, sans supervision, sans toit. Dans certains cas, des personnes souffrant de troubles de santé mentale peuvent être admises temporairement dans des installations psychiatriques sur une base volontaire ou involontaire, c'est-à-dire si elles y consentent ou non, selon qu'elles posent un danger pour leur sécurité ou celle d'autrui. Les lois sur la santé mentale des provinces précisent qu'une personne peut être détenue comme patient involontaire si un médecin considère que le patient satisfait les critères de la loi ou si une cour ordonne une évaluation psychiatrique. La détention n'est que de 24 à 96 heures selon la province. Un patient peut être détenu plus longtemps, mais dans ce cas, il a droit à une révision. La Cour doit prendre en considération la liberté et la dignité des personnes avec des troubles mentaux, leur sécurité et celle d'autrui. Hausse marquée. Une étude portant sur les hospitalisations psychiatriques en Colombie-Britannique montre que les hospitalisations involontaires sont encore bien présentes. Si, en 2008, les hospitalisations involontaires représentaient 44,6% de toutes les hospitalisations, 10 ans plus tard, elles étaient rendues à 57%, un bond qui correspond à une croissance de 65,7% des hospitalisations involontaires entre 2008 et 2018. Pour les chercheurs de l'étude, ce n'est pas tant l'hospitalisation involontaire qui doit être privilégiée, mais bien le système de soins volontaires. Parmi les patients qui avaient visité les urgences en 2017-2018, 25% des patients avec des problèmes de santé mentale et 75% des patients toxicomanes, dont 50% avaient des troubles de santé mentale concomitants, n'avaient pas eu de visite psychiatrique dans l'année. Et 25% des patients avec des troubles de santé mentale et des problèmes de consommation n'avaient pas de problèmes de santé mentale lors de leur dernière visite annuelle. L'augmentation des hospitalisations serait, pour les chercheurs, le résultat de soins et de suivis non rendus et insuffisants. De plus, 75% de toutes les hospitalisations pour les patients schizophrènes étaient involontaires. Les personnes souffrant de schizophrénie pourraient être plus à risque de réhospitalisation étant donné le lien entre hospitalisation involontaire et la non-prise des médicaments. La relation entre cliniciens et patients est importante pour prévenir les hospitalisations involontaires. Plus de ports d'attache. Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait revoir la loi 38 sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Québec est particulièrement préoccupé par la porte tournante de patients qui sortent d'un établissement pour être réadmis peu de temps après, faute de prise en charge dans la communauté. Certes, le système de santé mentale doit être revu. Les patients atteints de troubles de santé mentale ont besoin de plus de soins, de suivi et de ressources d'hébergement. Forcer des patients à se faire soigner est une option qui ne devrait pas occulter la nécessité d'avoir les ressources suffisantes pour y arriver. De plus, le communautaire doit faire partie de l'élaboration de la solution. À l'heure actuelle, le communautaire assure une grande part des hébergements en santé mentale dans la communauté, sans trop de ressources financières. Il importe d'améliorer la prise en charge, de mieux épauler les patients avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, avec des services de proximité adéquats, de soutenir les familles et de ne pas abandonner ces personnes à la dérive qui ont besoin de soins, de supervision et surtout d'un toit. La Colombie-Britannique a annoncé des investissements de 1 milliard de dollars sur 3 ans pour régler les problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Québec devrait prendre exemple, prioriser la santé mentale et investir davantage. C'était l'hospitalisation involontaire. Un texte de Benoît Garreau, président du groupe Espace Santé, Myriam Morissette, avocate associée chez Terrien Couture Jolicoeur, Joanne Rioux, médecin psychiatre à l'hôpital Charles-Lemoyne. Paru le 15 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.fcvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Robert Chartier à la lecture, Diane Métaillé et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.